Voilà, bien-aimés, bonjour à tous et à toutes. Que la grâce et la paix vous soient accordées ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour nous un immense honneur et privilège d'être là ce matin, réunis en son nom, assemblés en son nom. Nous croyons que notre Dieu est ici parmi nous ce matin. Combien le croient? Alléluia. Il est parmi nous ce matin et Dieu a un message de paix pour toi ce matin. Je m'appelle Johnson, je suis le pasteur de l'église portugaise. C'est pour moi un immense honneur et privilège d'être réuni avec les baptistes français et ukrainiens. C'est Dieu qui a proportionné ces instants bénéfiques que nous allons passer et dans sa présence. Nous allons, sans plus tarder, ouvrir la parole et avancer. J'aimerais que nous nous tenions debout pour la lecture de la parole. J'ai omis de donner le verset à la projection. Luc chapitre 15, si tu as le temps, Steve. Luc 15. Et le verset 11 jusqu'au 32. Gloire à Dieu. Donc, je vais avancer et tu me rattraperas. Il s'agit ici d'une parabole que Jésus va donner, raconter à ses disciples. Et nous allons développer ça. Verset 11, il dit encore, « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. » Le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à s'y retrouver dans le besoin. Il alla se mettre au service dans des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici je meurs de faim. » Verset 18, « Je me leverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Le verset 20, il se leva. Il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut et se jeta à son cou et le baisa, l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre toi, contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe. » Il la revêtit. « Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez les veaux gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils, qui voici, était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Verset 25. Or, les fils aînés étaient dans les champs. Lorsqu'il revint, s'approcha de la maison. Il entendit la musique et les danses. Il appela l'un de ses serviteurs et lui demanda ce qui c'était. Ses serviteurs lui dit, « Ton frère est de retour et parce qu'il l'a trouvé, dans ce cas le père, parce qu'il l'a trouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il s'est mis en colère. Il n'a voulu pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec des prostituées. C'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu et fut retrouvé, parole du Seigneur. Père, nous te bénissons ce matin pour ta présence au milieu de nous. Te remercions pour l'opportunité et par-dessus tout pour les privilèges qui nous est accordé ce matin de pouvoir partager ces instants bénéfiques dans ta sainte présence. Te prions, Père éternel, que ton Saint-Esprit puisse me guider afin que je puisse, oh Dieu, prêcher ta parole et glorifier seulement ton nom. Bénis l'auditoire, viens capaciter à chacun de nos vies, au Père, chacune de nos vies, afin que nous puissions comprendre ta parole et, de par cette parole, puissions aussi avoir un changement de vie. Sois élevé au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Gloire à Dieu. Je ne serai pas long. Je vous apporte un message. Là, je sors de mon répertoire. Amen. J'ai l'habitude de prêcher en portugais. Mais aujourd'hui, c'est un grand exercice pour moi aussi. Je vous apporte ce message qui a pour thème le pouvoir de la décision. Le pouvoir de la décision. Nous avons lu Luc, le verset 11 au 32. Et si auparavant Jésus fera allusion à plusieurs paraboles, le verset qui vont précéder. Mais il arrive à ce verset 11 où Jésus, dans cette parabole, avait pour objectif de montrer à ses disciples l'amour inconditionnel de Dieu envers ses enfants. Mais ce que j'aimerais ce matin, c'est que nous puissions exploiter notre côté caché de cette parabole. Le côté dont nous n'avons pas lu, le côté dont peut-être vous n'avez jamais entendu. Et j'aimerais, à ce court instant, vous faire comprendre ce côté qui peut-être pour toi serait opposé. Jésus va raconter l'histoire d'une famille dans cette parabole. Jésus raconte l'histoire à la vie d'un père qui avait deux enfants. Ce père avait deux fils, deux héritiers. Et la Bible dira que le plus jeune de ses enfants viendra vers son père et lui dira, « Mon père, donne-moi la part des biens, la part de l'héritage qui doit m'y revenir. » La part de l'héritage qui doit m'y revenir. Et ce qui m'a laissé un peu stupéfait dans tout ça, c'est que le père ne va pas s'opposer à la demande de cet enfant. Il était le cadet, c'était le plus jeune. Et le père dit la Bible qu'il partage ses biens entre les deux. Il est important de souligner ici que Jésus met en avant la vie du fils cadet. Il y a une chose bizarre ici. Il met en avant pour montrer la gravité de la chose. la gravité de l'histoire. Mais pourquoi? Parce que, en général, l'héritage, elle est partagée au décès des parents ou de l'un des parents, même si parfois il y a des exceptions. Mais Jésus veut nous enseigner une chose très importante ici. Selon la loi ou les règles, la loi juive, quand un fils aîné, le plus vieux, vient demander à son père la part de l'héritage qui doit lui revenir, lui parvenir, selon la loi, son père se trouve dans l'obligation de donner sa part d'héritage sans aucune résistance. Sauf que, ici, c'est tout à fait le contraire. Ici, c'est le fils cadet qui fait la demande de son héritage. C'est le fils cadet qui vient s'opposer à son père et demander la part de l'héritage qui doit lui revenir. Ce père donne cet héritage. Et la Bible dira que peu de temps après, ce fils cadet va rassembler tout ce qu'il a. Il ramasse toutes ses affaires et vient vers son père. Père, je pars. Je m'en vais. Il part, dit la Bible, dans une terre lointaine. Dans une terre très, très loin. Maintenant, il vit loin de son père. Il vit loin de sa terre natale. Et ma Bible va souligner que ce jeune arrive dans ce pays, il commence à vivre d'une façon, d'une manière désordonnée. Il commence à vivre dans la débauche. Ce jeune qui est un jeune d'une bonne famille, d'une belle famille, un bon héritier, commence maintenant à vivre d'une façon qui est complètement opposée de l'éducation qu'il a été dont il a été donné par son père. Elle vit, il commence à vivre sa vie, elle vit sa vie, il commence à disrespecter les règles, il vit comme bon lui semble. Sauf que l'héritage n'est pas éternel. L'argent n'est pas éternel. Les biens que nous possédons n'est pas éternel. Et à un moment donné, ce jeune commence à voir son héritage s'épuiser. Son héritage commence à s'en aller. À partir jusqu'au point qu'il n'avait plus rien. Il n'avait plus rien. Et pour son malheur, ma Bible dira qu'une famine extrême s'abattra dans ce pays. Le pays qui lui a adopté va connaître un temps de faim extrême. Et lui, l'héritier, c'est lui qui possédait des richesses, c'est lui qui avait sa part de l'héritage. Et il commence à passer par des besoins extrêmes. Et la Bible dira encore que puisqu'il n'avait plus rien, la faim s'abat dans ce pays. Lui, dans son ventre, il n'a plus rien non plus. Il va s'approcher à l'un des citoyens de ce pays. Il demande de l'aide. La Bible dira que ce monsieur lui enverra dans le champ pour garder les pourceaux. Ce n'est pas tout. La faim qu'il a commence à lui faire désirer la nourriture que les pourceaux mangeaient. Ce qui est incroyable, c'est que même les aliments pour les animaux lui a été refusé. Il n'avait pas le droit de manger ce que les porcs mangeaient. Il n'avait pas le droit. L'on dit non. Il a demandé de manger avec le porc. Mais lui ont dit non. Il a descendu très, très bas. Ces jeunes qui vivaient dans le luxe, bonne famille, qui vivaient peut-être une vie qui, dans son entourage, tous souhaitaient avoir la même vie, commencent à passer par des besoins extrêmes. Des besoins extrêmes. Et les porcs, les animaux, deviennent plus importants que lui. Plus important que lui. Mais c'est là que tout se joue. Il commence à se questionner. Il commence à réfléchir. Et à un moment donné, il dira, mais combien de travailleurs, de mercenaires à mon père, chez mon père, ont abondance de pain, ou du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Combien de travailleurs chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici dans ce pays, je crève de faim. Il a, dans sa réflexion, il va utiliser, il va jouer la dernière carte qui lui restait, le pouvoir de la décision. Il dit, moi, j'irai vers mon père et en m'approchant de lui, je lui dirai, mon père, je péchais contre le ciel et contre toi. Je ne suis point digne d'être appelé ton enfant, ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. Il se leva, il alla vers son père. Et ma Bible dira qu'il était encore loin, que son père lui a reconnu. Son père va vers son fils, ému d'intime compassion. Lui embrassa, lui prit entre ses bras, lui baisa. Et lui, il va répliquer, mais mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis point digne d'être appelé ton enfant. Traite-moi comme l'un de tes employés. Mais la Bible dira, ma Bible dira, que le père ne fait pas attention à son discours. Le père, il va appeler ses employés. Il va ordonner qu'on vienne avec de nouveaux habits, des souliers pour les pieds, des anneaux pour les doigts. Il dira encore, allez chercher le veau gras. Tuons-le, car mon fils, celui-là, il était perdu, et bien voici retrouvé. Perdu, mais voici retrouvé. Ils ont commencé à se réjouir, à se réjouir, à se réjouir. Mais que nous devons retenir ici, c'est l'attitude, l'audace qu'a eu ce fils cadet. Malgré sa faute, malgré son erreur, il a reconnu qu'il avait encore un père et qu'il n'avait nul besoin de vivre dans l'état dont il s'y trouvait. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Ce jeune prit la mauvaise décision en quittant son père, en quittant sa famille. Mais il reconnut la bêtise et a rejeté de vivre dans la même situation, dans le même état. Il va quitter la terre qu'il lui avait adoptée. Mais pourquoi? Parce qu'il n'a plus plaisir de vivre dans la débauche. Il n'a plus plaisir de vivre dans le péché. Raison pour laquelle il abandonne son ancien style de vie. Bien-aimé, maintenant je me trouve dans l'église contemporaine. Maintenant j'aimerais faire face à ma vie. J'aimerais faire face à ta vie. Et j'aimerais que, de par ces paroles, là où je serai en train de finaliser, tu puisses réfléchir. Dans quel état tu te trouves? Malheureusement, cette histoire se répète encore aujourd'hui. Et quand je dis aujourd'hui, je fais allusion au sein même de l'Église. Je vais peut-être choquer des gens, mais l'Évangile confronte. Mais ce qui est dommage, c'est que les gens aujourd'hui, dans l'Église contemporaine, n'ont plus envie de prendre la bonne décision. Les pouvoirs de la décision leur ont été offerts, mais l'envie de prendre la décision, elle est nulle aujourd'hui au sein même de l'Église contemporaine. Les gens n'ont plus envie d'abandonner leurs péchés, car ils prennent plaisir de vivre dans le péché. Cette parole de vérité est annoncée. Le péché est exposé. Le péché est dénoncé. Mais ils restent dedans volontairement. Car à un moment donné, les gens sont devenus insensibles à la vérité. Ce qui est dommage encore, c'est que les chrétiens contemporains, ils oublient que chaque choix, chaque décision, elle s'accompagne avec sa conséquence. Mais ce qui est triste dans tout ça, c'est qu'ils prennent des décisions, mais après, ils réclament, croyant que c'est Dieu le coupable de la conséquence ou des conséquences de leur choix. Ils s'y plaignent. Alors qu'ils subissent la conséquence ou les conséquences de leur choix, de leur décision. Nous allons commencer dans peu de temps une nouvelle année. Et Dieu m'envoie ce matin afin que tu puisses connaître ce qu'il attend de toi pour cette nouvelle année. En général, c'est à cet instant que nous faisons un bilan de notre parcours. Comment nous nous sommes portés? Qu'est-ce que nous avons obtenu? Est-ce que j'ai réussi mes projets? Là, je suis arrivé. Là, je n'ai pas été capable d'arriver. Là, c'est mort. Ici, j'ai encore de l'espoir. C'est là que nous faisons un point d'arrêt pour faire un bilan. Et ce matin, le Père te dit, prends la bonne résolution. Prends la bonne décision. Tu connais ton état. Tu connais l'état de ton cœur. Mais Dieu te dit ce matin, prends la bonne décision. Mais pourquoi aujourd'hui? Car demain, tu ne sais pas ce qui arrivera demain. Ce qui t'attend demain, tu ne sais pas. C'est vrai que nous nous projetons déjà l'année prochaine, mais en vérité, qui de nous est sûr qu'il entrera en 2026? C'est là que j'appelle la foi humaine. Là, nous avons tous foi d'arriver là-bas, même ayant une vie très éloignée de Dieu. Mais Jésus, ce matin, t'accepte comme tu es. En vérité, ce Père dans cette parabole, c'était l'image du Père éternel. Et peu importe l'état dont tu te trouves, si tu es sale, tu nages dans le péché, il suffit de prendre une décision et de revenir vers ton Père qui aura de la compassion pour toi. Mais il est temps de prendre la décision. Il est temps de prendre la décision. Car les conséquences de nos choix nous attendent, certes. Mais il y a une autre chose beaucoup plus importante que ça. C'est le retour de Jésus-Christ. Jésus revient bientôt. Et ces moments, ces jours-là, croyez-moi, personne ne le sait. Surprise. Et le maître sera là. Par contre, là, sera trop tard pour renoncer au péché. Là, sera trop tard pour laisser une vie de débauche. Là, sera trop tard pour souvenir des exhortations, souvenir des conseils, se souvenir de l'évangile. Ça sera trop tard. Du moment que la trompette retentira, il n'y aura plus d'opportunité pour personne. Personne. Sinon pour ceux qui ont pris la décision de revenir vers le Père et de marcher selon sa parole, selon sa vérité. Les jugements derniers arrivent. Et aujourd'hui, nous avons ce privilège de pouvoir recommencer avec Dieu. De pouvoir repartir à zéro. Nous avons cette opportunité aujourd'hui. Et mon conseil, c'est que tu puisses recommencer à zéro avec ton Dieu. À un moment donné, Jéhovah, le Dieu Tout-Puissant, il va dans l'Exode. Dans Deutéronome, il va dire à son peuple, « Voici, je mets entre vous les bénédictions et les malédictions. » Il dira encore, « Je mets entre vous, devant vous, la mort et la vie. » Et il dira, « Je vous conseille de choisir la vie. » Et ce conseil s'applique aujourd'hui pour ta vie. Choisis la bonne part. Choisis de revenir envers ton Dieu, envers ton Dieu. Choisis d'accepter cette vérité. Choisis de marcher selon la vérité qui t'est exposée aujourd'hui, ce matin. Choisis de renoncer à tes péchés. Choisis de renoncer à tes mauvaises pensées. Choisis de renoncer à tes mauvaises pratiques, à ton immoralité sexuelle, à ta vie de débauche. Choisis de renoncer à tout ça, car demain peut être trop tard pour toi. Et d'éternité à éternité, la parole qui viendra dans ta bouche sera « si je le savais, si je le savais, si je le savais, si je le savais ». Car pour ceux qui ont ou qui vont vivre jusqu'au bout, selon la parole, pour ceux-là, il y a une éternité dans la joie, dans la paix. La mort n'existera plus. La vieillesse ne sera plus. La douleur ne sera plus. D'éternité en éternité, seront avec leur Dieu, avec notre Dieu. Mais il y a une autre réalité. Ceux qui n'ont pas accepté la vérité. Ceux qui ont refusé la vérité. Ceux qui ont dit non à la vérité. Ils auront une autre éternité. Le feu éternel. La souffrance éternelle. Loin de Dieu. Et croyez-moi, l'enfer n'est rien. L'enfer n'est rien. Vous savez, qu'est-ce qui fera plus mal? C'est l'absence de la présence de Dieu dans ce lieu. Alors, choisis la bonne part aujourd'hui. Que 2026 ne soit pas seulement une nouvelle année, mais que tu puisses être une nouvelle personne dans une nouvelle année. Alléluia. Sois une nouvelle personne dans une nouvelle année. Voilà les messages que l'Éternel avait pour toi ce matin. Jésus t'aime. Et il n'a pas de plaisir de te voir souffrir. Il t'aime. Il a donné sa vie afin que tu puisses hériter la vie éternelle à son côté. Alors, prends-y la bonne décision. Marche selon la vérité. Choisis la bonne part. Accepte l'évangile et marche selon l'évangile. Et à la fin, tu diras, eh bien, j'ai bien fait de persévérer, d'accepter, de renoncer. Car aujourd'hui, je suis là et je peux contempler l'agneau sur son trône. Que la grâce et la paix vous soient accordées au nom de Jésus. Père éternel, merci pour ta parole.